Maire de France, bonjour. Nos communes ont la parole sur Radio Territoria, présenté par Christophe Bordet.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Territoria pour ce nouveau podcast de Maire de France. Bonjour, la seule émission qui met en avant les maires de nos communes, celles et ceux qui agissent dans l'ombre et que l'on ne voit jamais ou trop rarement et qui pourtant sont bien là et font des choses pour leurs habitants. Aujourd'hui, nous allons largement évoquer, je sais que c'est un sujet qui parle à beaucoup de ceux et évidemment de celles qui nous écoutent. Nous allons largement évoquer l'état de nos routes et de nos ponts. Le réseau routier national, 20 849 km, 12 379 km d'autoroute, dont 9 158 km sont concédés à des sociétés sous contrat avec l'État, 8 470 km de routes nationales, il faut ajouter à cela, et on va en parler, les routes départementales, les routes communales, les chemins communaux, qui souvent sont en difficulté. Alors en revanche, ne demandez pas le nombre exact de ponts en France. Personne, je dis bien personne, n'est en capacité de donner un chiffre précis. 26 000 pour les uns, 25 000 pour les autres. Ah ben, on a perdu 1000. Ah ben voilà, c'est comme ça. On n'arrive pas à avoir le chiffre précis pour le moment. Ce que l'on sait, c'est que beaucoup de routes et de ponts sont en piteux état, c'est une réalité, pas toujours facile de circuler confortablement donc, et c'est le sujet de Maire de France, bonjour.
Je te souviens du pont qu'on traversait naguère, pour passer la rivière tout près de la maison, le petit pont de bois qui ne tenait plus guère que par un grand mystère et deux piquettes droites.
Eh oui, le petit pont de bois qui ne tenait plus guère d'Yves Dutheil. Ah, il y en a, hein, des ponts, des ouvrages d'art qui tiennent le coup en France, on ne sait pas trop comment, peut-être par l'opération du Saint-Esprit d'ailleurs, hein, c'est possible. Et certains départements sont plus touchés que d'autres. Pour comprendre avec nous aujourd'hui, des invités de grande qualité. Jean-Claude Rousseau, qui est maire de Genouillac dans la Creuse, on dit aussi Genouillat. Allez, on va dire Genouillac. Bonjour, mon cher Jean-Claude.
Bonjour à tous.
Merci beaucoup, merci d'être là avec nous pour évoquer ce sujet. Michel Proust, qui est maire de Villegaillin, que dans l'Aude. Bonjour mon cher Michel.
Bonjour à toutes et à tous.
Avec cette belle barbe blanche, fidèle donc à cette barbe blanche. Hein, on l'a toujours connu comme ça, notre ami Michel. Et puis Jean-Marc Dumoulin, qui est maire de Villemur-sur-Tarn et qui est au téléphone avec nous, parce qu'à Villemur, à Villemur c'est pas facile Internet, hein, ça passe pas toujours très bien. Bon.
Si c'était facile, ça se saurait.
Voilà, exactement. Bon, messieurs, avant de vous donner la parole, cartographie globale de l'état de nos routes et de nos ponts. Avec nous, pour en parler, Bérénice Deville. Bonjour Bérénice.
Bonjour Christophe.
Merci d'être à mes côtés également. Il faut le dire, c'est un sujet qui revient régulièrement. Il y a déjà eu un rapport, et même plusieurs rapports d'ailleurs, du Sénat sur ce sujet. Et ces derniers jours, l'actualité des routes et des ponts délabrés est revenue sur le devant de la scène. Bérénice, il y a quelques exemples qui ne manquent pas de sel. Hein.
Tout à fait, et un en particulier, nous partons en Normandie, plus précisément entre les départements de l'Eure et de l'Oise. Le pont qui relie la commune de Nauphle-Saint-Martin à celle de Courcelles-lès-Givors est désormais fermé depuis le 30 mars dernier. Ce pont a été diagnostiqué comme fragile après une expertise menée sur les fondations. Alors pour l'instant, aucune date de réouverture n'est programmée. On ne connaît pas non plus le montant des travaux. Et c'est un véritable problème qui se pose pour beaucoup de personnes, hein, puisque la fermeture de ce pont entraîne la coupure d'une petite route sur laquelle roulaient chaque jour 671 véhicules.
Alors, les ponts délabrés et donc les routes également.
Eh bien, l'état des routes n'est pas mieux, en effet. On était pourtant parti de très haut. Hein. En 2012, la France était en tête du classement réalisé par le Forum économique mondial concernant la qualité des infrastructures routières. Et en 2019, rapport accablant, la France est passée de la première à la 18e place. L'état des routes se dégrade chaque jour. Et d'ailleurs, le week-end dernier, durant le dimanche de Pâques, la FFMC, Fédération française des motards en colère, basée à Montpellier, a organisé une grande chasse, non pas aux œufs, comme vous Christophe, mais aux nids de poules, afin de dénoncer les crevasses qui se multiplient sur les routes. Les motards de l'Hérault ont donc été remplir de paille et d'œufs les nids de poules recensés dans le département et ont appelé tous les Français à le faire. Opération donc assez spectaculaire, le but étant de ne pas finir en omelette. Et d'ailleurs, si vous vous aussi vous constatez un nid de poule, sachez que vous pouvez le signaler sur niddepoule.fr. Hein,
niddepoule.fr, voilà, ça existe.
Un site qui a été lancé l'an dernier justement par la FFMC, Moto Magazine et la Mutuelle des Motards.
Bon, ben c'est très bien tout ça, enfin si l'on peut dire. Jean-Claude Rousseau, maire de Genouillac dans la Creuse, tiens, vous avez trouvé des œufs dans vos nids de poule, vous, ou pas, sur les routes, là?
Oui, bien sûr, parce que j'ai 130 km de route, moi, et de piste, donc à peu près de la moitié goudronnée, à 30 000 euros du kilomètre, donc forcément, il y a des nids de poule, oui.
30 000 euros du kilomètre, ah oui, quand même.
Ah ben, quand on fait de l'enrobé à chaud, c'est ça, hein, c'est à peu près le tarif syndical, c'est 30 000 euros du kilomètre. Donc quand on en a 70 dans la commune, vous comprenez qu'on avance à petits pas. Mais on dessert principalement les villages, quoi. On fait petit à petit environ 3-4 kilomètres tous les ans de route. Oui. C'est énorme.
3-4 kilomètres, oui, c'est énorme pour vous et ça paraît peu en même temps. Hein. Oui. C'est vrai. Oui. Non mais c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Pistes, comment vous financez d'ailleurs tout ça? Parce que c'est vrai qu'il faut trouver de l'argent quand même. Et que j'imagine que... Oui, il y a combien d'habitants dans votre commune?
On est 800 habitants environ, voilà. Alors j'ai la chance d'avoir une entreprise qui s'appelle Eurocoustique Saint-Gobain, qui fait la laine de roche, donc c'est très porteur, et ils font de l'isolation, donc si vous voulez, on a une taxe professionnelle.
Donc ils payent des impôts, voilà.
Oui. Voilà, ils payent CFE, CVAE, et donc ça nous permet, si vous voulez, d'entretenir notre patrimoine et celui des routes en particulier.
Bon, alors les routes, effectivement, c'est un problème, et puis il y a les ponts. Alors, sur votre commune, vous avez combien de ponts, vous ?
J'ai une vingtaine d'ouvrages, on va dire. Il y en a, j'ai un viaduc également,
oui,
la SNCF qui n'existe plus. J'ai une vingtaine d'ouvrages et il y en a une quinzaine qu'on peut considérer comme des ponts. Mmh. Et j'en ai un, d'ailleurs, qui s'écroule. On a limité la circulation aux 3,5 tonnes et on va essayer de le refaire dans l'année, là. Mmh. Mais il y en a pour un billet de 100 000 euros.
100 000 euros pour reconstruire ou en tout cas améliorer un pont qui est en mauvais état.
Pour le consolider, parce que
pour
si
le
on
consolider.
Refait comme ça, ça ne va pas être la même chose. Simplement, voilà, et la voûte s'effondre un petit peu, elle se sépare de l'encorbellement du pont et il faut intervenir rapidement, le chaîner et puis refaire dessus la chaussée.
Mais là, par exemple, j'imagine, vous dites, on l'a interdit au plus de 3,5 tonnes. Par exemple, il y a beaucoup d'agriculteurs, d'exploitants agricoles, j'imagine, sur votre commune. Ils ne peuvent pas traverser ce pont, par exemple, s'ils ont des gros tracteurs, des gros engins.
Non, parce qu'on a limité également la largeur. On a mis des blocs de pierre pour empêcher de passer, parce que là, c'est dangereux. Et donc, voilà. Ils ont un kilomètre à faire, un kilomètre ou deux kilomètres, pour passer de l'autre côté, donc c'est pas non plus insurmontable.
Donc il faut faire un détour, si on est agriculteur à Genouillac, il faut faire un détour pour accéder à sa parcelle, parce que le pont n'est pas en état de recevoir les véhicules.
Ah non, il peut plus, là, c'est dangereux, il menace ruine, quoi, voilà.
C'est un pont qui a été construit en quelle année, là, chez vous?
Il a environ 200 ans, c'est comme l'armoire ici, tout a 200 ans, donc...
Ah ben vous, non, vous, visiblement, vous n'avez pas encore 200 ans, hein.
Je m'en rapproche.
Bon, non mais très honnêtement, vous le disiez, il me faut un billet de 100 000 pour rénover ce pont.
Ah oui, oui.
Où vous allez chercher l'argent? Parce que ce n'est pas les taxes de cette entreprise et ce n'est pas les impôts des 800 habitants de la commune qui vont permettre de trouver 100 000 euros.
L'argent, ben on va le récupérer avec la DETR, hein, dotation d'équipement des territoires ruraux, et puis de la DSIL, dotation de solidarité d'investissement local. Ça va nous aider à 50-60% au moins, quoi. 50-60%. Donc
il faut trouver le reste encore.
Voilà, il faut trouver le reste et on le prendra sur les deniers communaux au détriment d'autre chose.
Ouais.
Au détriment d'autre chose.
Qu'est-ce que vous pensez de cette mesure, hein, qui a été annoncée il y a quelques semaines maintenant, qui est passée d'ailleurs un petit peu inaperçue, parce que comme on ne parle que de la Covid-19, on ne parle plus du reste. Voilà. Mais qu'est-ce que vous pensez de cette mesure? C'est-à-dire l'État, le gouvernement, qui vient de débloquer 40 millions d'euros d'ingénierie dans le cadre du plan de relance pour mieux connaître l'état des ponts des petites communes. C'est une bonne chose? À votre avis ?
Ah ben bien sûr que c'est une bonne chose. Pour une fois, j'allais dire, l'État agit avant de réagir quand tout s'écroule. Donc on peut considérer que c'est une bonne mesure, oui, tout à fait. Mmh.
Cela étant, bon, ben, quand même, l'état des ponts, on sait que beaucoup de ponts sont en mauvais état, beaucoup de routes sont en mauvais état. encore faire une étude pour classer le nombre de ponts classifiés, etc. On se dit que cet argent aurait pu servir justement à réparer les ponts.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, je me suis débrouillé seul. J'ai demandé à un cabinet d'études d'expertiser ce pont. Et j'ai fait venir des spécialistes des ponts, un maçon qui est pas très loin de Genouillat, qui a étudié ce pont. Il m'a dit, voilà, il faut faire telle chose. Et je lui fais confiance. Effectivement, l'argent que je vais dépenser, il sera exclusivement réservé au pont et non pas quelquefois à des études redondantes. Qui servent à peu de choses. Voilà, ce qui compte, c'est de faire le job, c'est sûr, refaire ce pont.
J'ai envie de vous dire, Jean-Claude Rousseau, parce que la Creuse est un des départements où il y a le plus d'ouvrages d'art en difficulté, voilà. Ben oui. Est-ce que vous dites, ben oui, comme si c'était normal, mais justement, ce n'est pas
c'est
normal.
C'est pas normal, non, mais bien sûr que non. Vous savez, je vais pas me battre pour la ruralité, mais quand on donne 1 euro aux ruraux, on en donne 2. Aux citadins. Et là, je suis totalement opposé parce que moi, sur ma feuille d'impôt, je paye le même tarif qu'un citadin. Et là, je suis totalement au combat de ce côté-là. Je suis président des maires ruraux de la Creuse. Voilà, c'est mon combat quotidien de me battre pour la ruralité. Et j'espère que dans l'Aude, où je connais bien Ville-Gaillen, parce que je vais à Bouillonnac, le monde est vraiment
c'est
tout
pas
petit.
Loin, oui.
Ouais, mais c'est vrai que la ruralité, on nous laisse tomber un petit peu. Là, on vient nous voir en ce moment, il y a le Covid. On a un peu plus de gens qui viennent nous saluer. Je les comprends parce que quel bonheur de vivre en Creuse. C'est une île au milieu de la terre. Voilà.
C'est magnifique ce que vous dites. Encore. Ouais, non, mais c'est magnifique.
Mais moi, je peux vous dire qu'on est heureux à la campagne et c'est un véritable bonheur. Vous savez, je vais pas m'étendre. J'ai commencé ma carrière à Paris, à l'école polytechnique. J'étais pas balayeur, mais presque. J'étais responsable du budget. J'étais pas polytechnicien. Et j'ai pris grand plaisir à rentrer dans ma campagne. J'ai raté ma carrière, mais je suis heureux ici. Et en plus, je suis maire. C'était pas prévu, mais voilà, c'est un bonheur. Je suis heureux, là.
Alors, très heureux. Vous le savez, il y a beaucoup de citadins qui, justement, sont partis se confiner déjà à la campagne. Donc, peut-être qu'un certain nombre sont arrivés dans le département de la Creuse ces dernières heures. Et puis, il y a beaucoup de citadins aussi qui décident, parce que le télétravail le permet aujourd'hui, de partir s'installer justement à la campagne. On peut dire un mot peut-être là-dessus. Est-ce que, par exemple, dans la Creuse, chez vous, vous voyez arriver justement des Français qui vivent en ville ou qui vivaient en ville jusque-là et qui décident de venir dans votre région, dans votre secteur ?
Ah oui, tout à fait. Il y en a pas mal. On a vendu pas mal de maisons cette année, un peu plus que les autres années. Et c'est vrai que les gens viennent ici changer de vie, trouver un havre de paix qu'ils n'ont plus à Paris, parce que je les comprends aussi. Hein. Le confinement à Paris, moi c'est une plaisanterie ici, le confinement en Creuse. Mais par contre à Paris, oui, dans les grandes villes, dans les grandes agglos, oui, ça doit être terrible.
Ah ben, au milieu des champs, on n'a pas besoin de mettre un masque, effectivement.
Ben, pourtant, on nous l'oblige.
Même si on rencontre une vache, je veux dire, bon, voilà.
Oui, mais c'est... Hein, le port du masque est obligatoire en Creuse, quel que soit le lieu.
Bon, vous restez avec nous, Jean-Claude. On va continuer de parler de tout ça, évidemment. Avant de donner la parole à Jean-Marc Dumoulin, qui est maire de Villemur-sur-Tarn, j'accueille au téléphone Francesco Papa. Bonjour.
Bonjour à tous, bonjour Christophe.
Alors Francesco, écoutez bien messieurs les maires parce que c'est très intéressant. Vous développez en France une application, une solution Smart City qui permet de mieux connaître l'état des routes, des voiries. Alors vous c'est plus en milieu urbain jusqu'à présent, mais c'est quand même très intéressant. Racontez-nous cette application en quelques mots.
Bien sûr. Alors nous en fait on développe une solution sur un smartphone, quelque chose de très simple qui va détecter automatiquement l'état des voiries en circulant sur un véhicule. Donc on utilise l'intelligence artificielle pour vraiment analyser des photos qui sont prises par cet iPhone et qui ensuite va traduire ça en données sur l'état de ces voiries.
Alors comment ça se passe? On met l'iPhone derrière le pare-brise par exemple, on roule et il prend des photos automatiquement, comment ça se passe?
C'est ça, comme un GPS mais un peu de l'autre côté, sauf qu'on n'a pas besoin de le toucher. Donc on circule et les photos se prennent automatiquement.
D'accord. Et donc, depuis, avec ces photos, on peut analyser l'état de la route sur laquelle on est.
Voilà. Donc, c'est le premier temps, c'est un recueillement. Et le deuxième temps, c'est effectivement la donnée qui est retransmise sur un SIG, donc une cartographie en ligne, qui met en avant ces résultats.
Alors, ça permet quoi pour les mairies, justement, concrètement?
Alors, l'idée, donc, comme on l'a dit au début, hein, on a vraiment des routes aujourd'hui qui se dégradent de plus en plus et des budgets qui s'alourdissent, hein, et qui doivent être, du coup, priorisés d'une certaine manière. Donc l'idée, c'est de donner, c'est de pouvoir donner aux communes, aux collectivités, un outil qui permet de mettre en avant des plans de gestion, de peut-être prioriser des segments qui sont les plus dégradés, mais aussi encourager la maintenance préventive, qui est, je pense, une approche qui est malheureusement pas assez pratiquée au niveau de nos collectivités, qui est de, en fait, prévenir d'un dommage qui, demain, est une simple fissure, mais après-demain sera quelque chose de beaucoup plus gros et plus coûteux. Donc, c'est ça l'idée derrière.
Donc, l'idée, c'est de faire des économies, voilà, au final.
Voilà, donc on entre vraiment sur deux volets d'économie. Hein. L'idée, c'est des économies immédiates, parce que souvent, bon, beaucoup de collectivités font des diagnostics, hein, mais souvent c'est des diagnostics qui sont faits manuellement, donc ils prennent beaucoup plus de temps. Et ensuite, c'est des économies long terme sur la maintenance préventive, effectivement.
Et vous pourriez, Francesco, étendre cette solution Smart City, comme je le disais, à la ruralité, au département un jour?
Ouais. Je dois dire que la solution répond déjà à un contexte rural, parce que la plupart de nos partenaires sont des collectivités qui sont entre 50 et 150 kilomètres de voirie. Donc on parle vraiment de petites villes. Pourquoi? Parce que bon, c'est une solution qui est accessible, qui est vraiment pour les petites communes qui ont souvent des budgets un peu moins importants, mais qui ont quand même envie d'innover. Et on répond à ce besoin.
Jean-Claude Rousseau, ça vous parle, ce genre d'initiative?
Je ne connais pas, mais je suis preneur.
Vous êtes preneur. Ah bah tiens, vous avez gagné un client déjà.
C'est déjà pas mal. Voilà, non, c'est une bonne initiative. Je pense que je ne connaissais pas ce procédé, mais pourquoi pas, oui, moi je suis...
C'est vrai que c'est difficile de connaître l'état des routes aujourd'hui, concrètement pour vous, parce que vous n'avez pas, vous, d'ingénierie dans votre commune, par exemple. Il faut faire venir...
Moi, j'ai trois agents techniques, trois cantonniers, comme on dit. Quoi.
Ah, donc, les cantonniers, j'ai bien connu, moi, ça aussi.
Oui, bien sûr. Ah,
oui. C'est vrai, ils étaient avec leurs faux au bord des routes. Et à l'époque, le bord des routes était tondu. Alors qu'aujourd'hui, avec les intercommunalités, si c'est une fois ou deux par an, c'est un grand maximum. Mais c'est pas grave, on paye plus d'impôts, mais il y a moins de services. Cherchez les erreurs.
Bien sûr. Voilà. Ouais. Ouais.
C'est malheureux.
Vous ne
parlez
pas d'intercommunalités, je suis totalement opposé aux intercommunalités. C'est des gouffres. C'est des gouffres financiers. Vous voyez, on en a une à Guéret, là. Ils ont 3 millions cette année-là de déficit. 3 millions d'euros. Hein.
Une paille, quoi. Merci en tout cas. Merci Francesco Papa d'avoir été avec nous. Et puis, on aura l'occasion de se reparler, évidemment, et de vous mettre en contact avec les maires qui sont avec nous à nos côtés aujourd'hui. Jean-Marc Dumoulin, vous êtes le maire de Villemur-sur-Tarn. Au téléphone, ça vous réjouit, vous aussi, ce genre d'initiative?
Lesquelles, la vôtre?
Ou la mienne, j'espère qu'elle vous réjouit, je vous donne la parole.
La vôtre, oui, bien sûr. Oui. Après, écoutez, on est un peu gavé aussi de technologie. Hein. C'est vrai que tout ce qui est Smart City, alors déjà, il a fallu avoir des réseaux déjà 3G, voire 4G satisfaisants et suffisants pour pouvoir fonctionner sur nos territoires. Parce que moi, j'ai des vallées, j'ai des creux, j'ai des bosses. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est quand même compliqué déjà de pouvoir faire vivre les applications classiques. Regardez, j'arrive même pas à vous avoir au téléphone, quoi.
On n'a pas idée d'avoir des creux et des bosses aussi en même temps, mais Jean-Marc. Ouais. Bon, on plaisante, mais c'est vrai que c'est difficile.
Effectivement, bon, enfin, j'ai entendu quand même pas mal de choses qui ont été dites. Bon, je suis président de la communauté, moi aussi. En plus de mon rôle de maire de Villemur-sur-Tarn, je crois que l'intérêt de l'outil intercommunal, effectivement, contrairement à ce qui peut se faire partout, c'est de ne pas redonder les postes, mais c'est de mutualiser des postes et de mettre des postes techniques là où les petites mairies peuvent pas se le payer. Et c'est comme ça qu'on essaye de travailler chez nous. La difficulté dans les messages qui sont passés, c'est quoi? C'est qu'on ne sait plus, à cause du millefeuille administratif qu'on a en France, on ne sait plus qui fait quoi. Regardez, mon collègue disait tout à l'heure qu'il avait je ne sais combien de ponts sur son territoire. Bon, moi j'en ai deux majeurs. Bon, il y en a un à côté de chez moi. Vous avez vu la catastrophe qu'il y a eu l'année dernière sur
le pont de Mirepoix.
On a le pont de Mirepoix qui s'est effondré, effectivement. Et on a le même type d'ouvrage oubané, si vous voulez, sur Bessières, sur Buzet, sur Villemur, sur Villebrumier, dans le Tarn-et-Garonne. Parce que c'est des ponts qui avaient été mis en urgence, si vous voulez, après la crue de 1930. Donc, sur des produits qui n'étaient pas destinés, mais avant, le tonnage des véhicules suffisait à contenir effectivement les pressions qu'on imposait à ces ouvrages. Aujourd'hui, c'est plus le cas du tout. Et pour revenir donc au sujet des ponts, les ponceaux, les pontets, les ponts machin chose, regardez, quand on cartographie nos cours d'eau, on a un fossé qui devient cours d'eau, qui redevient fossé, qui redevient cours d'eau. La domanialité n'est pas la même. Donc, on a le droit d'entretenir de telle et telle manière-là, sous égide, évidemment, de l'État ou du conseil départemental. Et à côté, ça nous appartient à nous. Les routes, c'est pareil. Qu'est-ce qui est intercommunal? Qu'est-ce qui est communal? Qu'est-ce qui est départemental? Qu'est-ce qui est ayant droit départemental avec urbanisation à la clé à la mairie? Je veux dire, il y a rien qui est vraiment défini. Si vous voulez, les choses ont grandi trop vite. La mutation de notre société, qui était nécessaire, hein, bien évidemment, hein, et de notre organisation politique, a été très très vite. Et aujourd'hui, personne ne domine rien. Quand l'État met 40 millions d'euros, c'est 40 millions d'euros, vous avez dit?
Oui, 40 millions.
En études?
Mais en études.
Les études, c'est 10%, même pas 10%, de l'ingénierie nécessaire qu'on peut avoir pour des travaux. Où est-ce qu'on va trouver les 90% restants? Qui va nous les donner? Qui va nous les donner? Moi, je demande que ça, de refaire des routes convenables. Je demande que ça, de conforter. Bah, Villemur, on a fait comme monsieur. Le pont suspendu, hein, emblématique de Villemur-sur-Tarn, ben, je l'ai passé à sens unique et je le piétonise à moitié et je le laisse en phase roulante à moins de 7,5 tonnes sur le reste.
Pour
je ne veux pas prendre de risque et je n'ai pas les moyens de faire.
Mais alors, justement, on va refaire un petit point. Tiens, d'ailleurs, Jean-Marc Dumoulin. Non, mais c'est intéressant. Non, mais c'est extrêmement intéressant tout ce que vous avez dit, parce que c'est vrai que ce millefeuille administratif, effectivement, plus personne n'y comprend rien, déjà pour commencer, et il est au cœur de l'actualité. Pourquoi? Parce qu'on a bien vu avec la Covid-19, les confinements, etc., que l'État était à la fois impuissant, que les régions étaient parfois plus efficaces, on ne sait plus qui donne quel ordre et comment. C'est très, effectivement, compliqué. Cette lourdeur administrative pèse sur tous les citoyens. Jean-Marc Dumoulin, le pont suspendu de Mirepoix, pour y revenir quand même, cette catastrophe au-dessus du Tarn qui s'est effondrée. La cause, le passage d'un camion de 50 tonnes qui n'aurait pas dû s'aventurer sur ce pont réservé aux véhicules, en tout cas aux 19 tonnes et pas plus. Deux personnes, dont une adolescente, je le rappelle, de 15 ans, qui sont décédées dans ce drame. Les travaux de démolition ont commencé il y a quelques semaines. Tout d'abord, on en est où concrètement là, alors qu'il est au niveau de l'enquête d'abord, est-ce qu'on est sûr que c'est uniquement le passage de ce camion qui est à l'origine de l'effondrement du pont?
Bah, écoutez, aujourd'hui, évidemment, vous vous doutez que l'assureur, malheureusement, de la victime, hein, et en même temps du causeur, entre guillemets, hein, de cette effroyable catastrophe, elle n'est pas en train de payer. Donc le conseil départemental de Haute-Garonne fait un énorme effort financier, c'est-à-dire qu'il a acheté un très grand local à Villemur, il démonte petit bout par petit bout le pont de Villemur qu'il reconstitue, qu'il reconstitue à Villemur pour faire une étude effectivement mécanique hautement poussée, sachant qu'il a passé quand même maintenant plus d'un an dans l'eau, hein, quand même, il faut quand même le reconnaître. Et donc des responsabilités seront dégagées. Là, le conseil départemental est parti pour faire un chèque de 25 à 30 millions d'euros. Je crois pas beaucoup qu'il y ait des assureurs qui vont quand même se manifester à ce montant-là. Après, la difficulté qu'il y a aussi, mais monsieur, enfin mon collègue l'a évoqué tout à l'heure.
Oui.
Quand on coupe un endroit, par exemple la ville de Mirepoix, elle est complètement asséchée. C'était le seul, enfin financièrement déjà, parce que il y a eu une gestion qui était particulière peut-être, enfin ça c'est pas mon propos, mais il y avait un accès, c'était le pont.
Ouais.
Maintenant, tout est dévié par un autre pont que nous avons, n'est-ce pas? Mais il y a des surcharges de roulage maintenant qui sont impressionnantes sur la commune. La commune ne peut pas payer sa quote-part, même si le département aide à entretenir certaines routes. Hein, ce qui, si vous voulez dévier, c'est dégrader ailleurs. Hein, il ne faut pas se voiler la face. Il y a un équilibre qui s'était établi un peu partout. Dès qu'on enlève une... Hein, c'est comme les shunts en médecine ou ce que vous voulez. Hein, dès que vous commencez à ponter quelque chose, ça passe par un autre endroit. Hein. Et donc, bah, c'est nos difficultés auxquelles on est confrontés aussi aujourd'hui, quoi.
Mais
donc,
ce pont de Mirepoix,
c'est une science aussi de 7 ans, hein.
Ouais. Oui, voilà, le pont de Mirepoix, là, il va être reconstruit quand même?
Le conseil départemental s'y est engagé.
Voilà, d'accord.
Oui. Ouais, mais enfin, sachant que finalement, pendant 6 ou 7 ans, les gens vont avoir pris d'autres réflexes.
D'autres habitudes, oui.
Eh ouais.
Moi, la question que je me posais aussi, parce que il y a beaucoup d'ouvrages, par exemple, qui, alors, les communes très bien, mais qui sont effectivement, comme vous l'avez dit, aussi sous la responsabilité des départements, et on se dit.
Ou de l'État.
Alors, l'État, les départements, honnêtement, aujourd'hui, les finances sont à sec. Même si là, les milliards coulent à flot pour aider les commerces, par exemple, etc., on sait que les finances sont à sec. Donc, on se demande si la situation, en réalité, ne va pas empirer. Quel est votre sentiment, vous, par rapport à ça?
C'est toujours moi que vous parlez, Christophe?
Oui, oui.
Oui, oui, bah écoutez, oui, ça va être très compliqué. Sachant que nous, on est quand même vernis. c'est que le conseil départemental de Haute-Garonne, puisque nous on a quand même une dynamique économique qui fonctionnait très bien jusqu'alors, puisque aéro, hein, vous vous en doutez, donc on va avoir un ressac important cette année, mais très important l'année prochaine en termes de fiscalité locale, départementale, voire régionale. Mais on était un département qui aidait encore les communes sur ce qu'on appelle le pool routier, c'est-à-dire qu'on avait une participation du département pour nous aider. Mes collègues, qui parlait tout à l'heure, sa ville de 850 habitants.
Oui, Jean-Claude Rousseau.
Il aurait le département qui arrive à payer 60 à 70% parfois des routes, sur des zones qui appartiennent qu'à la mairie, c'est quand même hautement, hautement confortable. Après, bien évidemment, que je pense que le conseil départemental, nous, c'est 54 millions d'euros, je crois, de tête, pardonnez-moi, je suis pas tout à fait fier du chiffre. Mais 54 millions d'euros dans les routes qui sont balancées quand même au niveau du conseil départemental de Haute-Garonne sur les routes, sur les voies vertes, sur les voies cyclables et compagnie, qui est quand même beaucoup, beaucoup de sous. Mais il va bien falloir prioriser, parce que l'aide sociale, elle est en train de monter en charge plus,
ben oui.
Parce que les défaillances d'entreprises feront qu'on aura moins de recettes, il faut pas se voiler la face, sachant que le gouvernement, en nous enlevant la taxe d'habitation, dégrève les départements d'une partie des taxes foncières pour nous les reverser à nos communes, il va y avoir des jeux d'écriture et des assemblages qui vont être périlleux.
Jean-Marc Dumoulin, vous restez avec nous, évidemment. Michel Proust, maire de Ville-Gaillen, qui est avec nous également. Je vous donne la parole. On se souvient du drame de 2018, de cette inondation hors norme, ce torrent qui a balayé ponts, routes et bâtiments de votre commune, Michel. Beaucoup de victimes au total dans votre secteur également à l'époque. On se souvient.
Au sud de Carcassonne, à Ribaute, l'Orbieux est sorti de son lit à une vitesse folle, submergeant ce pont qu'on distingue à peine. Même scène à Ville-Gaillenc, où un autre pont a été violemment arraché par la force du courant. La commune est ce matin coupée en deux.
La commune de Ville-Gaillenc coupée en deux, reportage de nos collègues de France Télévisions à l'époque. Alors, Michel Proust, depuis 2018, tout d'abord, est-ce que votre commune a retrouvé son pont ?
Non. Non. Donc le pont, par contre, par chance pour la commune, c'est une compétence du département. Donc le département y travaille. Et normalement, les travaux du nouveau pont devraient commencer dans le dernier trimestre 2021.
Donc ça se passe en 2018 et les travaux du nouveau pont ne démarreront qu'à la fin de l'année 2021. C'est très long quand même.
C'est ça.
C'est très très long, Michel.
Mais c'est long parce que alors la particularité par rapport donc à notre commune, c'est que le pont se trouve en zone urbaine. La zone urbaine qui a été fortement impactée, puisque sur les 38 maisons que nous allons devoir déconstruire, il y en a 32 qui sont aux abords du pont. Et donc il y a des études hydrauliques qui se sont enchaînées. La dernière donc en date qui va se terminer en juin, bien a donc défini la partie hydraulique par rapport au pont. Donc, pour imaginer un peu l'arche du pont que nous avions, puisqu'il y avait une seule arche, faisait 18 mètres de large. Le nouvel ouvrage va faire 40 mètres.
Ah oui.
Et il va devoir laisser passer, donc, 250 mètres cubes d'eau seconde sous le pont. En même temps aussi, nous avons demandé, nous, par rapport à la sécurité des citoyens de la commune, donc, les parapets de ce pont-là soient submersibles aussi. Donc c'est vrai que c'est une petite contrainte technique supplémentaire. Alors c'est long, mais c'était nécessaire pour arriver à ce résultat et commencer en fin d'année, parce qu'il faut d'abord, pour pouvoir faire le nouvel ouvrage, il faut d'abord démolir les premières maisons.
Et ça veut dire une mise en service de ce nouveau pont quand, à peu près, si tout va bien ?
Alors les travaux vont durer entre 5 et 8 mois, voilà.
5 et 8 mois.
Donc ça veut dire par contre que pendant 5 à 8 mois, le village de nouveau va être coupé en deux, donc les poids lourds déviés par un autre côté. On n'aura plus qu'une petite rue dans le cœur de village qui fait 3,50 m de large pour faire une circulation alternée pour les véhicules légers. Les commerçants qui vont beaucoup souffrir parce que là, il n'y a plus aucun véhicule qui va traverser le village et les commerces sont sur cette route puisque c'est une route où il y a 6500 véhicules jour qui passent et dont 25% de poids lourds, donc une route très fréquentée et qui sert aux commerçants. Donc de nouveau, les commerçants, après les inondations, après la Covid, vont être de nouveau impactés. Heureusement, l'autre jour, donc, Carole Delga, notre présidente de région, est passée et a dégagé une enveloppe pour pouvoir venir en aide aux commerçants une fois les travaux du nouveau pont réalisés.
Oui, ça veut dire que, bon, aujourd'hui, par exemple, pour sortir et rentrer dans la commune, dans le village, il faut faire un détour de combien à peu près, alors concrètement, comment vous faites ?
Non, alors depuis les inondations, donc l'État a mis en place, et ensuite le département, puisque l'État en a assuré la location pendant un an, et maintenant c'est le département, qui entre parenthèses coûte 236 euros par jour de location, un pont provisoire a été installé, le pont qui bêlait.
D'accord. Que va devenir
puisque c'est une route à grande circulation, on ne pouvait pas laisser couper.
Voilà. Que va devenir le pont qui a été très endommagé. Donc, ça va devenir quoi? Un monument sur lequel on vient se recueillir. Ça va devenir quoi?
Non. Alors le nouveau pont, le pont qui a été détruit va être complètement donc démonté. Il a été emporté dans sa totalité. Voilà. Par contre, nous avons un deuxième pont en amont aussi de celui-ci, un deuxième ouvrage qui, lui, il nous faut attendre la fin de l'étude hydraulique pour savoir s'il devrait être démoli aussi ou alors si on pourra le conserver. Mais quoi qu'il en soit, c'est comme ça que je l'appelle parce qu'on fait tout quand même pour le conserver. Celui-ci, mais ça sera, j'appelle ça le pont d'Avignon, ça sera comme le pont d'Avignon, puisque derrière, il va falloir ouvrir l'espace pour que l'eau puisse s'écouler.
D'accord.
Donc, c'est une partie des maisons, là, il y a 5 maisons qui vont être détruites pour pouvoir creuser et faire écouler l'eau lorsqu'il y aura des volumes importants comme nous avons connus.
Michel Proust, qu'est-ce que vous pensez de cette enveloppe-là dont on parle depuis le début de l'émission, débloquée par l'État, enveloppe pour l'ingénierie justement des ouvrages d'art, 40 millions d'euros pour savoir quels sont les ouvrages qui ont besoin d'un petit coup de neuf, hein, si je puis dire. Vous pensez que c'est une goutte d'eau dans l'océan, si je puis dire ?
Mais, oui, alors, contrairement à mon collègue de la Creuse, nous avons le département qui aide beaucoup les petites communes à ce niveau-là, donc ils ont un service des ouvrages et qui nous font les diagnostics régulièrement. Ça, c'est important. Il y a aussi, depuis quelques années, maintenant le département a mis en place aussi une agence technique départementale qui nous permet donc de faire des préchiffrages et aussi la partie technique aussi en ce qui concerne les routes, en ce qui concerne les aménagements des rues, même dans les cœurs de village. Voilà. Donc ça, on a cette chance dans le département d'Aude d'avoir un conseil départemental qui met une grosse part d'argent en direction des petites communes.
Donc ça veut dire quand même qu'à Ville-Gaillen, qui est dans la région, les routes sont plutôt en bon état, il n'y a pas des nids de poules tous les 2 kilomètres, voilà quoi.
Ah, malheureusement, alors, et contrairement à mon collègue de la Creuse, maintenant, à l'heure actuelle, s'il y a des dizaines d'années en arrière, c'était un manque. Aujourd'hui, c'est l'avantage. Moi, la commune de Ville-Gaillen, qui est une toute petite commune, il n'y a que 270 hectares, ce qui fait qu'on a très peu de routes communales. On est traversé par 2 routes départementales, donc qui sont à la charge du département. Et après, au niveau communal, on a très peu de voiries. Et heureusement, parce qu'exemple, suite aux inondations, donc ce qui a été retenu, le montant des travaux retenus et la grande majorité, c'était sur la voirie, il y en a pour 280 000 euros. D'accord. Ce qui prouve effectivement le côté financier très important d'entretenir les voiries.
Oui, évidemment. Non mais écoutez, moi j'ai une idée toute simple, on va transférer la Creuse dans l'Aude. Comme ça, au moins, Jean-Claude Rousseau sera heureux, voilà, tout simplement. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que, voyez, on a pris quand même 3 départements différents et on voit que les situations ne sont pas les mêmes partout parce que les politiques locales sont pas non plus les mêmes partout, les budgets sont pas les mêmes partout, etc. Et il y a des conséquences, évidemment, derrière. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les 3 d'avoir participé à Maire de France, bonjour. Jean-Claude Rousseau, je rappelle, maire de Genouillac, dans la Creuse, était avec nous. Michel Proust, maire de Ville-Gaillen dans l'Aude. Et Jean-Marc Dumoulin au téléphone, maire de Villemur-sur-Tarn. Merci beaucoup, une fois de plus, d'avoir été avec nous. Maire de France, bonjour sur Radio Territoria. On se retrouve en podcast, bien sûr. Bonne écoute à toutes et à tous et à bientôt.
Maire de France, bonjour. Nos communes ont la parole sur Radio Territoria. Une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Territoria et toutes les plateformes de streaming.